Il est 8h sur Europe 1.
Il y a énormément de cas. Le maire a fait des démarches pour fermer les écoles et le préfet n'a pas accepté. J'arrive pas à comprendre.
Pas de vacances scolaires en avance à Dunkerque. Les écoles doivent ouvrir ce matin comme un lundi normal, alors que le variant anglais du virus fait exploser les contaminations et sature déjà l'hôpital. Mauritanie, Mali, Niger, Burkina et Tchad, 5 nations, un ennemi commun, les groupes djihadistes, et un allié qui réfléchit à l'avenir, la France. Dans ce journal, Christophe Ondelatte et Chloé Triomphe pour voir comment les enquêteurs vont centraliser leurs vieilles affaires non élucidées. Et puis, jamais complètement passé de mode, même si les publicités ont pris un coup de vieux.
Bien chauffé.
Grande routière, notre voiture, la R4 Renault.
Cette année, vous allez la revoir, la 4L, de toutes les couleurs, mais en une seule motorisation électrique.
8h15, votre rendez-vous. Sonia Mabrouk reçoit Alexandre Kouchner, demi-frère de Victor qui accuse Olivier Duhamel d'inceste. Bon réveil, bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il s'agit de muscler le dispositif sanitaire à Dunkerque. La préfecture a ordonné le port du masque partout. Le dépistage va être renforcé alors que le variant anglais représente 80% des cas. Le nombre de contaminations est en ce moment près de 3 fois plus élevé qu'ailleurs en France. Quant au début des cours ce matin dans les écoles, il doit être échelonné dans la matinée.
Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous. Maximilien Carlier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour Europe 1 devant l'école de la Porte d'Eau à Dunkerque. C'est un lundi un peu différent d'habitude.
Oui, effectivement François, c'est notamment le cas devant cet établissement. Les enfants vont arriver de manière décalée. Première vague 8h50, la deuxième à 9h20. L'objectif c'est d'éviter les attroupements juste devant ces écoles. Olivier, papa de Jade, a du mal à comprendre cette décision.
Je pense qu'à une semaine des vacances, je pense qu'on aurait dû fermer totalement les classes. Donc peut-être pas pour les lycéens, ça d'accord. Mais au niveau des primaires et maternelles, ouais.
Alors dans les lycées et collèges, ça sera en mode mixte. 6e, 5e en présentiel par exemple, 4e, 3e en distanciel. Et il n'y a pas que les élèves qui sont concernés. La préfecture demande à tous les Dunkerquois de réduire leurs déplacements. Bénédicte restera chez elle pour travailler.
On a eu des messages comme quoi nous étions plus ou moins confinés sur le Dunkerquois, sur la communauté urbaine de Dunkerque. Donc moi qui travaille sur l'île, je n'irai pas sur l'île. Je me mettrai en home office comme il se doit.
Et l'Agence régionale de santé a annoncé une campagne de dépistage exceptionnelle dans les entreprises, dans les établissements scolaires. Elle rappelle d'ailleurs l'importance des gestes barrières entre amis et en famille.
Maximilien Carlier en ligne de Dunkerque pour Europe 1, du côté de la Moselle, où là ce sont les variants sud-africains et brésiliens qui circulent. Le département va recevoir aujourd'hui la visite d'une équipe de marins-pompiers marseillais, devenus des spécialistes dans l'analyse des eaux usées pour y traquer le virus.
Et puis une confirmation ce matin sur plus de 2 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire en France. La moitié sont des nouveaux venus depuis moins d'un an.
Oui, résultat d'une étude de l'Institut CSA pour les associations du secteur. En moyenne, les ressources de ces personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire sont de 839 euros par mois. Ils s'étaient retrouvés en France il y a un an pour rendre hommage aux soldats tombés au Mali. Les dirigeants du G5 Sahel se réunissent à nouveau aujourd'hui et demain. Ça se passe à N'Djamena, au Tchad, même si pour Emmanuel Macron, ce sera en visioconférence.
Bonjour Didier François.
Bonjour.
Si on se concentre sur l'année écoulée, le bilan de l'opération Barkhane est plutôt positif ?
Alors surtout si on compare la situation à celle de l'année dernière. Rappelez-vous ce sommet du G5 convoqué en catastrophe à Pau alors que les armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso venaient de subir une série de défaites traumatisante face à une offensive tous azimuts lancée par les groupes djihadistes. Et le président Macron avait alors décidé de muscler significativement les effectifs de l'opération Barkhane avec un renfort de 600 hommes déployés justement dans cette zone frontière entre les trois pays visés par l'offensive des islamistes. Alors aujourd'hui, les résultats obtenus sont vraiment spectaculaires. Les coups portés aux combattants de l'État islamique les ont obligés à s'éparpiller en tout petits groupes. Ils ne sont donc plus capables de monter des assauts d'envergure. La direction d'Al-Qaïda a été en grande partie décimée avec la neutralisation de son chef et de son commandant militaire. Ce qui a remonté singulièrement le moral des forces armées locales, lesquelles reviennent doucement dans les casernes qu'elles avaient abandonnées. Et le président de la République peut donc envisager désormais une réduction du nombre de soldats français déployés dans Barkhane. Mais ça prendra plusieurs mois, attention, pas trop vite, parce que s'il y a des progrès, il reste encore fragile.
Didier François, spécialiste des questions stratégiques et de défense à Europe 1.
8h05 sur Europe 1. On en vient au sujet des violences sexuelles. Le gouvernement continue de dévoiler ses arbitrages.
Oui, hier, le ministre de la Justice, Éric Dupont, Dupond-Moretti a parlé cette fois de l'inceste. Il est favorable à ce que l'on ne questionne plus le consentement avant l'âge de 18 ans. Muriel Salmona, qui est psychiatre et psychotraumatologue, nous explique ce que cela peut changer pour les victimes.
Ça change très concrètement qu'on ne va plus avoir à qualifier la contrainte, la menace, la surprise ou la violence pour dire que c'est un viol ou une agression sexuelle. Alors que là, actuellement, on pouvait considérer que puisqu'elle n'avait pas dit non, c'est qu'elle était consentante. Ça paraît complètement hallucinant, mais la loi faisait qu'on pouvait le faire. Changer la loi, c'est une partie de cet énorme chantier, mais c'est symboliquement, c'est très important de lutter contre l'impunité.
Muriel Salmona, la présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Elle était au micro Europe 1 de Caroline Baudry.
Oui, je vous rappelle que dans moins de 10 minutes, Sonia Mabrouk reçoit Alexandre Kouchner, qui est par ailleurs enseignant à Sciences Po et qui pourra réagir à cette vague de témoignages parmi les élèves de Sciences Po. On les appelle les cold case dans les séries américaines pour affaires non élucidées. Et les enquêteurs veulent apporter des réponses.
Oui, des propositions vont être mises sur la table. D'ici la fin du mois, un groupe de travail avec des magistrats, des policiers, des gendarmes, mais aussi des avocats spécialisés. Ils ont épluché les multiples lacunes dans le système français pour résoudre ces affaires criminelles qui sombrent parfois dans les oubliettes.
Et il nous fallait nos experts d'Europe 1 pour en parler. Bonjour Christophe Ondelatte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Chloé Triomphe également du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Chloé, cette nouvelle unité va avoir pas mal de travail a priori.
Oui, alors il faut savoir effectivement que c'est loin d'être anecdotique puisque le nombre d'affaires concernées, eh bien, s'élèverait selon un avocat spécialisé dans les cold cases entre 200 et 300. Alors le problème, eh bien, c'est que ces dossiers qui peuvent impliquer des tueurs en série sont éparpillés un peu partout en France et c'est la raison pour laquelle le groupe de travail plaide pour un pôle de juges spécialisé à l'image de ce qui se fait en matière de terrorisme ou de délinquance financière. Écoutez Maître Didier Seban.
Les tueurs en série voyagent dans toute la France, ils viennent même quelquefois de l'étranger, on l'a vu récemment avec un tueur allemand. C'est ne se donner aucune chance de trouver la vérité que d'enquêter un dossier à Châlons-en-Champagne, un deuxième à Reims, un troisième à Lyon et un quatrième à Toulouse, où chaque juge a son affaire sans que les magistrats se parlent, n'échangent, sans que les enquêteurs n'échangent. Et donc on se condamne à l'échec et c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'arrête pas les tueurs en série dans ce pays.
Alors, selon nos informations, la création de ce pôle serait vue d'un bon œil par la chancellerie, mais il y a d'autres problématiques, comme par exemple celle des scellés. Ils sont conservés souvent dans des cartons entreposés tant bien que mal dans les sous-sols des tribunaux, et la loi autorise à les détruire 6 mois après qu'un juge ait décidé de refermer un dossier. Impossible, par conséquent, de les confronter des années plus tard au gigantesque progrès des expertises scientifiques.
Christophe Ondelatte, je reviens vers vous. On n'arrête pas les tueurs en série aujourd'hui, dit Maître Seban. Il y a plus de tueurs en série en France qu'on ne le pense ?
Oui, sans doute, parce qu'il y a quelque chose sur lequel on bute depuis des années. C'est pourquoi y a-t-il beaucoup de tueurs en série aux États-Unis, par exemple, et très très peu en France. Alors il y a une explication, moi je pense, et il y a un consensus à peu près là-dessus, qui est psychiatrique. Le système psychiatrique français est beaucoup plus efficace que le système psychiatrique américain, ce qui fait que les malades dangereux sont isolés en France, alors qu'aux États-Unis ils sont dans la rue. Mais il y a sans doute quelque chose à chercher du côté des juges d'instruction et de la manière très très individuelle qu'ils ont de mener leur enquête et avec ce souci de l'indépendance très légitime de l'instruction en France. Mais on voit bien qu'il y a un problème, par exemple, dans le rapprochement, ne serait-ce que de 2 dossiers en France. Mmh. Quand on a 2 dossiers connexes, on voit que les juges d'instruction ont du mal à abandonner un dossier pour le laisser à un autre qui est déjà saisi d'un dossier.
Mais pour vous, Christophe Ondelatte, il y a aussi quelques limites à ce projet de centraliser comme ça les enquêtes ?
La première limite, c'est la prescription, qui est de 20 ans pour les meurtres, pour les crimes. Alors attention, on n'est pas 20 ans après le meurtre ou le crime, mais 20 ans après le dernier acte d'instruction. Alors, je suppose que les gens qui m'écoutent vont dire, mais alors Grégory, c'était il y a 36 ans, comment ça se fait que aujourd'hui, ce soit toujours en instruction? Eh bien, parce que, compte tenu sans doute de la célébrité de l'affaire, les juges d'instruction qui ont hérité du dossier de Grégory ont veillé à refaire régulièrement des actes d'instruction pour que ne viennent pas la prescription et qu'on puisse continuer d'enquêter. Mais la limite de ça, c'est que pour un Grégory dans lequel on entretient la procédure, il y a des milliers et des milliers d'enquêtes dans lesquelles on referme le dossier avec soulagement. Il faut savoir qu'un juge d'instruction a en moyenne 150 dossiers d'instruction dans son cabinet et que donc il ne peut pas, lorsqu'il a clos un dossier, aller s'intéresser à d'éventuels sites, d'éventuels rebondissements. Et la clé de ce pôle d'instruction sera l'ADN, bien sûr. C'est l'évolution majeure de la police scientifique ces dernières années. Et on voit que dans l'affaire Grégory, c'est par l'ADN possiblement de parentèle qu'on va faire avancer l'enquête. Donc, évidemment, la création d'un pôle d'instruction spécialisé dans les cold cases sera un gros progrès en la matière.
Merci infiniment, Christophe Ondelat, pour votre éclairage ce matin. Je rappelle, bien sûr, le podcast Ondelat raconte, disponible dès 6h chaque matin à l'émission à 14h sur Europe 1. À tout à l'heure, merci aussi à Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1 pour ce dossier complet.
Et puis, cette question pour les fans d'automobile. 2021 sera-t-elle l'année de la 4L? Après le retour inattendu de la Renault 5 en version électrique, le constructeur Renault a décidé de mettre à l'honneur une autre star pleine de nostalgie, la R4, ou plus affectueusement 4L donc. En attendant une confirmation officielle, Aurélien Fleureau, quant à la relance d'un modèle rénové, eh bien de nombreux rendez-vous vont permettre à cette voiture mythique d'être présente toute l'année.
Oui, et elle vient de prendre place en vitrine de l'atelier Renault sur les Champs-Élysées dans une version parisienne, du vintage, du collector, une 4L devenue icône pop, impensable à ses débuts, rappelle Hugues Portron, directeur de Renault Classique.
C'est le cahier des charges très sommaire que Dreyfus, le PDG de Renault à l'époque, avait donné à ses collaborateurs. Il a dit « faites-moi une voiture blue jean ». Et il a dit « vous savez, c'est ce vêtement américain qui, si on n'est pas snob, rend tellement de service ».
Et elle est attendue, si tout va bien, en bas des marches du Palais des Festivals, à Cannes en juillet. La 4L et le cinéma, ce sont des scènes cultes, comme dans Trafic de Jacques Tati, qui imagine une 4L version camping-car, ou encore dans Les Visiteurs.
Mais sire ! Un sarrasin dans une chariote du diable ! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer !
La fameuse fourgonnette jaune de La Poste, sans oublier sa version douane franco-belge dans Rien à déclarer.
On a le droit de mettre un si gros moteur dans une 4L ?
Pourquoi on pourrait pas, hein ?
Et la nouvelle 4L risque d'être moins bruyante, c'est très probablement une version 100% électrique qui sera annoncée à la fin de l'année.
Aurélien Fleureau, le spécialiste transport d'Europe 1.
8h13 sur Europe 1, c'était le journal signé François Geffrier.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Notre invité prend la parole pour la première fois depuis le mouvement Science Sport qui dénonce des agressions sexuelles à Sciences Po. Alexandre Kouchner est enseignant à Sciences Po. Il est aussi le frère de Camille Kouchner, auteur du livre La Familia Grande. A tout de suite pour l'interview.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité.
Bienvenue à vous et bonjour Alexandre Kouchner.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous êtes également enseignant à Sciences Po Paris après y avoir été étudiant durant quelques années. Vous êtes aussi le frère de Camille Kouchner, auteur du livre La Familia Grande où elle dénonce l'effet d'inceste de la part du politologue Olivier Duhamel, inceste sur le frère jumeau de Camille Kouchner qui est donc aussi votre frère. Merci d'avoir accepté notre invitation et je m'adresse tout d'abord à l'enseignant et à l'ancien étudiant de Sciences Po. C'est une avalanche de témoignages via le hashtag #SciencesPort pour dénoncer dans ces écoles des agressions sexuelles, des attouchements non consentis sur les étudiantes jusqu'au viol. Est-ce que vous découvrez ces témoignages et leur ampleur aujourd'hui ?
Oui, avec effroi. Je pense que nous découvrons tous le sous-jacent sexiste qu'il peut y avoir dans notre société, la violence symbolique, mais aussi physique, qui s'exerce contre les jeunes femmes et aussi contre les jeunes hommes, contre les minorités sexuelles, parfois contre les personnes racisées. Il y a un fond extrêmement violent dans notre société. Et d'ailleurs, il serait faux de penser qu'il ne s'agit là que d'un problème propre à Sciences Po. Sciences Po est aujourd'hui, les Sciences Po d'ailleurs, sont aujourd'hui mises en cause. Avant les Sciences Po, c'était les écoles de commerce, les écoles d'art, les écoles d'ingénieurs. Il y a eu des mouvements pareils dans l'industrie musicale, dans l'industrie de la communication. Bref, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que notre société, exerce une vraie violence sexuelle et sexiste. Et c'est de ça dont il faut bien prendre conscience.
Pourtant, Alexandre Kouchner, certaines féministes disent qu'il y a une culture sexiste et même une culture du viol propre, justement, à ces écoles, notamment à ces IEP partout en France, à ces Sciences Po.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une culture globale sexiste et qui exerce des violences sexuelles. C'est un fait, on ne peut pas le nier. Il n'y aurait pas cette avalanche de témoignages pour des faits gravissimes. On parle effectivement de viol, mais une agression sexuelle, un harcèlement sexuel ne peut pas être pris à la légère. Est-ce que c'est spécifique aux IEP? Encore une fois, non. J'ai été élève à Sciences Po, j'y suis professeur, je suis extrêmement sensible à ces mouvements engendrés par les élèves qui aujourd'hui ne tolèrent plus ces comportements, et ils ont raison. D'ailleurs, ils nous rendent un service collectif, ce faisant. Mais si on se concentre uniquement sur ce qui se passe dans les IEP, on passe à côté du problème. Les IEP doivent prendre à bras-le-corps ce problème. On ne peut pas tolérer que des étudiantes aient peur d'aller en cours. En revanche, il faut se concentrer sur notre action collective. Il s'agit là d'un problème majeur. Nous devons tous ensemble œuvrer contre ces violences sexistes.
À vous
sexistes.
Entendre, Alexandre Kouchner, c'est une faillite collective qui en appelle à notre responsabilité collective, et de nombreux témoignages, malgré tout, sous le hashtag #sciencesport pointent l'existence d'un système qui aurait protégé les auteurs dans le but de ne pas salir en réalité l'image de ces écoles. Pourquoi ? Parce que ce sont des écoles d'où sortent, entre guillemets, les élites. Donc il y aurait un entre-soi protecteur.
D'abord, je ne pense pas que quand on est fait Sciences Po, on soit l'élite. C'est pas vrai. On s'élève à la force de son travail, pas parce qu'on a eu un diplôme. Ensuite, moi je suis très attaché à Sciences Po, et je peux comprendre que l'on parle effectivement de cette culture, parce que Sciences Po est à l'image aussi de la société, et que donc il y a un certain nombre de préconceptions qui sont fondamentalement sexistes, qu'il faut remettre en cause. Et vous avez raison de dire qu'il y a une faillite collective. Cette faillite collective, elle se joue à plusieurs niveaux. D'abord, il y a eu à un moment une culture qui a permis ces jaillissements. Ce n'est plus tolérable. Nulle part. Ensuite, c'est une faillite collective parce que les victimes, quelles qu'elles soient, hommes ou femmes, ne se sont pas senties entendues, soutenues, et surtout, elles n'ont eu comme choix que d'aller vers leur père sur les réseaux sociaux. C'est donc le signe que les structures que l'on a mis en place, il ne faut pas croire que les IEP et les autres structures d'enseignement soient complètement passives. Il y a des cellules, il y a des référents. Mmh. Simplement, eh bien, ces structures ne sont pas adaptées. Il nous faut penser un système qui protège et qui accompagne.
Parce qu'on n'a pas su, en tous les cas, elles n'ont pas été protégées, ces victimes ou supposées victimes. Il y a donc des responsabilités, sans vouloir pointer du doigt, mais des responsabilités quand même individuelles. Il n'y a pas eu les garde-fous suffisants, finalement, et une écoute de ces paroles.
Je pense que l'écoute n'a pas été suffisante, mais dans un grand nombre de cas, que ce soit à Toulouse, à Aix, à Bordeaux...
À Toulouse, c'est un cas grave, avec un placement en garde à vue pour viol.
Hier, l'agresseur présumé, puisqu'il faut le considérer présumé tant que la justice n'a pas rendu son verdict, a été effectivement mis en garde à vue. Il avait été auparavant expulsé de Sciences Po. Les victimes ont souvent été entendues par leur hiérarchie, mais ces hiérarchies, peut-être pas parce que nos procédures ne sont pas encore adaptées, peut-être parce qu'elles ne savaient pas exactement comment se positionner.
Et donc ce n'est pas, Alexandre Kouchner, parce qu'on voulait protéger ces instituts, ce n'est pas une volonté de culpabiliser les victimes. Certaines le disent sur le hashtag, vous vous dites non. Il y a un manque d'adaptation, on n'a pas compris ce qui se passait.
Je crois que nous ne sommes pas suffisamment sensibles et formés à ce genre de violence. Je ne veux pas et ne peux pas pointer vers des responsabilités individuelles. Moi, mon message, il est très très simple. On ne peut plus et on ne peut pas tolérer qu'une étudiante ou un étudiant ait la trouille quand ils vont en cours parce qu'ils peuvent se faire agresser sexuellement. C'est intolérable. Mais, et j'insiste sur ce point, penser que c'est un problème propre à Sciences Po est une erreur, car ça nous empêche d'agir collectivement. Ce ne doit pas être ni un débat sur les IEP, ni un débat uniquement polarisé politiquement, c'est un acte de société.
C'est pas facile, de faire enlever les lunettes idéologiques. Vous avez vu que certaines féministes considèrent qu'il y a une culture du viol qui s'installerait. D'autres disent que parce que ce sont ces écoles-là qui forment les élites, donc les élites seraient contaminées par cela. C'est pas évident de trouver ce chemin.
Non, c'est pas évident. Il y a effectivement un facteur culturel, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier qu'il y ait un facteur culturel quand ça se passe à Bordeaux, à Toulouse, à Grenoble, à Strasbourg, à Aix et encore une fois dans toutes les industries. Nous avons une culture sexiste et violente. Mmh. Et oui, comme vous le dites, c'est pas facile, ça nécessite beaucoup d'humilité, je crois. Il faut que nous puissions tous nous interroger sur notre conduite. Et puis, dans cette humilité, je pense qu'il y a un moment où il faut laisser parler celles et ceux qui agissent, qui accompagnent, qui forment. C'est-à-dire que de temps en temps, devant une telle souffrance, la seule chose à faire, c'est de fermer sa gueule. Et d'écouter...
Ah, vous le dites de manière directe et crue.
Oui, oui, parce que je pense qu'à force de tourner autour du pot et à vouloir polariser ce débat, on ne se donne pas les moyens collectifs d'agir. Si on y appose un angle purement idéologique, on se gourre. Ça touche des personnes qui sont plutôt à gauche comme des personnes de droite, ça touche toutes les strates de la société.
Et tous les milieux, les
tous
classes
les milieux.
Sociales.
Et donc, c'est à nous tous d'agir. Et agir, ça signifie d'abord ne jamais minimiser la parole des victimes, les accompagner comme on le peut, vers la justice, car ce sont les tribunaux qui rendent la justice.
C'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ni parfois aussi dans les livres, même si ces livres permettent aussi de libérer la parole de manière générale.
Je crois voir de quel livre, à quel livre vous faites allusion, mais il ne faut pas tout mélanger, d'abord. Et ensuite, il ne faut pas croire que aller sur les réseaux sociaux est une preuve de faiblesse ou une volonté de vengeance. Ce n'est pas vrai. Si ces victimes sont allées vers les réseaux sociaux, c'est qu'elles ne se sont pas senties écoutées ailleurs. Elle est là, notre faillite collective.
Ce mouvement, Alexandre Kouchner, via le hashtag #ScienceSport, et on vous entend ce matin, vous, l'enseignant et l'ancien étudiant, est apparu aussi dans un contexte particulier de la démission de Frédéric Millon, désormais ancien directeur de Sciences Po, qui connaissait les faits d'inceste de la part d'Olivier Duhamel sur votre frère et qui aurait continué, à Frédéric Millon, à préserver le politologue au sein de l'institution. C'est finalement, et là on parle d'inceste, c'est autre chose, mais c'est une faute morale.
Alors, d'abord, moi je ne suis pas venu m'exprimer sur ce point, je vais néanmoins vous répondre. Il ne faut pas tout mélanger. L'inceste est un crime extrêmement spécifique qui appelle une réponse pénale extrêmement spécifique aussi. Sciences Po Paris n'a pour le moment pas été mise en cause dans cette déferlante de témoignages. Quant à la décision un peu tardive, mais néanmoins nécessaire, de la démission de Monsieur Millon, elle est liée, comme vous le dites, à un autre élément que celui que nous commentons aujourd'hui.
Mais c'est quand même la libération de la parole, c'est ne pas protéger les personnes, c'est parler quand on sait. Ça participe, même si évidemment on fait la différence avec le crime d'inceste, ça participe de cette libération qui ne s'est pas faite, de cette parole qui ne s'est pas faite.
Vous savez, il y a deux manières de penser les choses. Soit on se dit que la parole se libère enfin, soit on se dit que la société écoute enfin. Et je pense que il y a un peu des deux. D'abord, cette parole, cette souffrance doit être entendue. Toutes les victimes doivent pouvoir s'exprimer, sachant qu'elles seront écoutées.
Par vous-même, Alexandre Kouchner, vous êtes enseignant en Sciences
Bien
Po.
Sûr.
C'est important.
Bien sûr.
Vous n'êtes pas un témoin, vous êtes aussi un acteur de ces écoles.
Bien sûr, et j'y étais élève avant, oui. et j'ai interrogé moi-même mes pratiques d'enseignant, l'espace d'écoute que l'on peut mettre à disposition. En revanche, là aussi, en tant qu'acteur, ou même en tant que citoyen, partout autour de nous, si quelqu'un est victime de ses actes, elle doit pouvoir être entendue, crue, soutenue, accompagnée et surtout ne plus jamais tolérer ce qui est en réalité intolérable. Ce n'est pas moral comme posture. J'entends beaucoup dire c'est une forme de moralisation, la vie publique. C'est pas vrai. Ce que ces victimes demandent, c'est l'égalité et la justice.
Je l'ai dit au début de cet entretien, vous êtes le frère de Camille Kouchner, Alexandre Kouchner, plus précisément le demi-frère Camille Kouchner qui a publié La Familia Grande pour dénoncer ces faits d'inceste d'Olivier Duhamel sur votre frère. Une enquête est en cours. On a envie de vous demander ce matin comment va votre fratrie, comment va votre famille ?
Écoutez, ma famille a vécu un moment tumultueux, douloureux, éprouvant. Mais là aussi, je pense qu'il faut savoir et voir que ce débat ne nous échappe plus, nous a échappé en réalité. Il ne s'agit plus de ma famille. Il s'agit là aussi d'un acte bien spécifique de l'inceste, de ses ruptures, de son silence. Là aussi, il y a un vrai débat de société à avoir. Mais ce qui compte, ce n'est plus uniquement la vie de ma famille. C'est que nous puissions enfin être à la hauteur de notre République. Il faut protéger celles et ceux qui n'ont pas à être agressés juste parce qu'elles sont nées.
Merci Alexandre Kouchner, parce que malgré de nombreuses sollicitations, vous n'aviez pas parlé jusque-là. Donc merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous et à bientôt.
Aussi. Les victimes doivent être écoutées, crues et accompagnées. L'appel d'Alexandre Kouchner ce matin sur Europe 1. 8h28, le journal dans un instant.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Et 8h30 sur Europe 1, tout de suite le rappel de l'info et avec Hélène Zélani.
Passer la frontière pour retrouver une vie normale, la tentation est grande pour tous ceux qui supportent mal le couvre-feu à 18h et la fermeture des bars et des restaurants. Alors ce week-end encore, de nombreux Français se sont retrouvés en Espagne pour goûter un peu la vie d'avant. Henri de la Guérie les a rencontrés dans le centre de Barcelone.
Depuis un an, les touristes se font rares sur les terrasses de la Plaza Real, alors forcément Martin, Clara et leurs amis ne passent pas inaperçus. Étudiants à Angers, ils ont décidé de suivre les cours devant leur ordinateur depuis Barcelone, où ils ont loué un appartement Airbnb. Ici, ils ont l'impression de revivre.
Bah oui, il y a un décalage vu que tout, enfin là on peut sortir, il y a les bars qui sont ouverts, les restaurants qui sont ouverts. Puis en France, bah, c'est pas la même ambiance.
Déjà on a passé un an un peu compliqué, on avait vraiment envie de voir autre chose. On retrouve un peu une vie normale, on va dire, à Barcelone.
Le couvre-feu ne commence qu'à 22h, en plus de la restauration, et tous les lieux culturels sont ouverts. Avec les vacances scolaires, les voitures immatriculées en France se font plus nombreuses et les vols sont remplis. Mais l'incidence du virus est deux fois plus élevée ici qu'en France. Ce tourisme inquiète les Espagnols. Martin en est conscient.
C'est pas évident parce que nous, on est un peu tiraillés entre le fait de soit rester en France et un peu subir la situation, soit voir l'Espagne un peu comme un Eldorado, on va dire. Après nous, évidemment, voilà, on ne vient pas du tout dans une optique de mettre le bazar, on va dire, dans la ville. D'autant plus qu'ici, les amendes sont beaucoup plus fortes qu'en France.
Et justement, plusieurs dizaines de Français ont été verbalisés pour des fêtes illégales dans des appartements touristiques à Madrid et dans des maisons de vacances en Catalogne. Barcelone, Henri de la Guérie, Europe 1.
Et détail qui a son importance, pour revenir en France, il faut un test PCR qui coûte entre 100 et 120 euros en Espagne. Au Royaume-Uni, la barre des 15 millions de personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin est franchie. Une quarantaine à l'hôtel pour les personnes qui viennent de pays jugés à risque entre en vigueur ce matin. L'Allemagne ferme en partie ses frontières avec la République tchèque et le Tyrol autrichien, tandis qu'en Italie, les stations de ski qui devaient rouvrir aujourd'hui resteront finalement fermées jusqu'au 5 mars. En France, un an de lutte contre la pandémie laisse certains soignants totalement exténués, en burn-out. Pas toujours facile d'en parler, pourtant il existe un lieu spécialement réservé à ces médecins, infirmiers ou aides-soignants. La seule clinique du genre est située à Louhans, près de Chalon-sur-Saône. Hélène Terzian a pu y passer un moment.
Alors ici, on a tous l'impression d'être un peu comme dans un cocon.
Ce cocon, c'est une clinique aux allures de grandes maisons de campagne. Il y a ce grand parc bordé d'une ferme où Stéphanie s'aère de temps en temps. On est loin des centres urbains, loin aussi de son environnement professionnel.
On est tous au même niveau, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de tabou. Ici, on sait tous à peu près pourquoi on vient, il n'y a pas de gêne.
Après un burn-out, épuisé par les cadences imposées pendant la pandémie, Nicolas a quitté Bordeaux il y a un mois pour passer ici de soignant à soigné.
Ça fait du bien. Ça fait du bien qu'on s'occupe de nous et il y a une équipe soignante qui comprend la difficulté de notre métier puisqu'ils comprennent qu'on est arrivé à un moment où on ne pouvait plus donner. On est des éponges et au bout d'un moment, on est submergé par tout ça.
Comme lui, un tiers des patients hospitalisés ont vu leurs troubles émerger pendant la crise. Des médecins, infirmiers, aides-soignants que l'équipe de psychiatres dirigée par Thierry Javelot voit affluer en ce moment.
Pendant la première vague, les soignants étaient au front et paraissaient plutôt bien résister. Il faut dire aussi qu'ils étaient davantage soutenus, valorisés. C'est moins le cas dorénavant. Et puis, ils ont maintenant en mémoire ce qu'ils ont dû affronter la première fois. Et certains ne veulent pas y retourner, tout simplement.
Ils seront encore plus nombreux dans les prochaines semaines, prévient le psychiatre qui se prépare déjà à voir les 38 lits de la clinique occupés. Louhans, Hélène Terzian, Europe 1.
Dans le Nord et en Moselle, c'est l'inquiétude à cause de la circulation des variants. 80% des nouveaux cas de Covid à Dunkerque, selon le maire. Vous l'avez entendu dans le journal de 8h, pas de vacances rallongées, mais des arrivées décalées le matin dans les écoles maternelles et élémentaires. élémentaires, dans les lycées et collèges. C'est partage entre présentiel et distanciel. Distanciel aussi pour Emmanuel Macron qui assiste au sommet du G5 Sahel en vidéoconférence tout à l'heure. Les discussions s'ouvrent à N'Djamena, la capitale tchadienne, avec au menu l'engagement de la France dans l'opération Barkhane. Elle avait besoin de se refaire une beauté. Les échafaudages seront bientôt montés sur la célèbre chapelle de Ronchamp, édifiée au sommet d'une colline au cœur de la Haute-Saône, en Franche-Comté. Classée à l'UNESCO, c'est une œuvre de l'architecte Le Corbusier qui attire quelques 70 000 visiteurs chaque année. Écoutez le reportage d'Arthur Elmbaché.
Le monde entier vient ici contempler une chapelle, joyau de l'architecture, Le Corbusier. Le monde entier tombe sur des fissures mal rafistolées, c'est vrai, reconnaît Jean-Jacques Virault qui va coordonner les travaux.
C'est quand même l'image de Ronchamp. On dit quand même, ils exagèrent, ils pourraient s'en occuper. On a des traces de mastic, c'est comme si on avait mis du scotch. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse, eh bien, c'est d'ouvrir ces fissures, de les traiter par un traitement qui fait disparaître la cicatrice.
Pour superviser les travaux qui vont prendre un petit peu de temps, la Tatillon Fondation Le Corbusier, les exigeants bâtiments de France et les minutieuses équipes de l'UNESCO. Facture 2 300 000 euros, subventionnée mais pas à 100%, d'où l'appel au don du responsable local de la Fondation du patrimoine Louis-Charles Jeanroy.
C'est un peu comme pour la sécurité sociale, c'est le reste à charge. C'est ce qui reste à régler une fois que les 90% réglés par l'État et d'autres... C'est ce qu'il reste à trouver.
Les travaux seront suivis attentivement de Marseille, où vous avez la Cité radieuse, mais aussi de Suisse, d'Argentine, du Japon, parce qu'un site qui sort des critères de l'UNESCO, c'est toute la liste Le Corbusier, les 16 autres exclus du classement au patrimoine mondial. Ronchamp, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Le rugby, les Bleus sont allés battre l'Irlande hier à Dublin 13-15. Deuxième victoire dans le tournoi des Six Nations pour le 15 de France qui se retrouve en tête de la compétition. Prochaine rencontre contre l'Écosse le 28 février. Un mot de foot avec hier soir Marseille réduit à 9 contre 11 qui a décroché le match nul à Bordeaux 0 partout. L'OM qui est 9e du classement dominé par Lille, le PSG et Lyon. Et puis Meghan Markle et le prince Harry n'ont sans doute pas choisi la date au hasard. Ils ont annoncé hier jour de Saint-Valentin qu'ils allaient avoir un deuxième enfant après Archie, bientôt 2 ans. Et évidemment, la nouvelle fait la une de la presse britannique à Londres, Anaïs Cordoba.
C'est une jolie photo en noir et blanc. On y voit le couple princier, Harry et Meghan, radieux. Allongés sous un arbre, pieds nus, Meghan a la main posée sur son ventre arrondi. Un deuxième bébé est en route pour le duc et la duchesse de Sussex, titre le Daily Telegraph. Le quotidien précise, ce sera le 10e arrière-petit-fils ou petite-fille de la reine et potentiellement le premier à naître à l'étranger. Harry et Meghan vivent en Californie depuis 8 mois. Pour le Times, Meghan est bien au-delà des 3 mois de grossesse vu la forme de son ventre. Le quotidien rappelle que cette bonne nouvelle fait suite à une fausse couche sur laquelle Meghan s'était confiée en novembre dernier. Enfin, toute la presse relève le clin d'œil de cette annonce tombée un jour de Saint-Valentin. Il y a 37 ans, un 14 février aussi, la princesse Diana annonçait être enceinte de son deuxième enfant, le prince Harry.
Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1.
C'était le journal d'Hélène Zellani sur Europe 1. Il est 8h38 et on retrouve Laurent Cabrol pour une météo bien plus douce pour démarrer cette semaine.
Ça s'arrange. Si comme Michel Delpech dans sa chanson sur le voile qui cache le gris du ciel, vous allez pouvoir admirer le soleil dans le gris de ce ciel dans le courant de la journée et vous allez voir que finalement il fera pas si mal que ça. Cette journée s'annonce plutôt douce et plutôt agréable sur les deux tiers sud de la France alors qu'il pleuvra sur les côtes de la Manche, il pleuvra aussi sur la Loire-Atlantique, sur la région parisienne et la Champagne et les Ardennes. Là la pluie sera parfois assez fréquente, ça va au côté comme l'on dit. Les températures maximales, 5 à Strasbourg, 6 à Lille, 8 à Paris, ça monte bien, hein, 10 à Caen, 11 à Nice, 12 à Marseille, 14 à Vichy et 16 degrés à Bordeaux.
16 degrés à Bordeaux, on peut enlever l'écharpe. Merci Laurent.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h38, bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous.
Notre santé avec vous chaque matin. Hier c'était la Saint-Valentin, vous vouliez du coup nous parler d'amour. On dit beaucoup de choses sur l'amour, on dit que l'amour rend aveugle. C'est vrai d'un point de vue médical ?
Oui, alors c'est vrai que le grand romantique que vous êtes m'avait dit en antenne que si l'amour rend aveugle, le mariage permet de retrouver la vue. Alors ça c'est un autre débat. Alors c'est vrai que quand on tombe amoureux, on a tendance à un peu idéaliser la personne qui est en face de nous. On a tendance à ne pas voir les défauts, on est un peu euphorique. Eh bien ça s'expliquerait scientifiquement. On a des zones dans notre cerveau qui lorsqu'on est amoureux vont un peu s'endormir. La première c'est celle du jugement critique. C'est pour ça qu'on ne voit pas les défauts de la personne, en tout cas pas au début. Celle des émotions négatives et celle de la dépression. C'est pour ça qu'on est très euphorique, qu'on est très content. Et ça permettra d'entamer ce qu'on appelle un biais d'engagement, d'aller vers la relation, même si la personne en face a des défauts. Défauts qu'on finira par voir, car malheureusement, cet effet un peu magique de la magie des premiers jours va s'estomper avec le temps, et on va finir par voir tous les défauts.
Est-ce qu'on aurait dans le même style une explication scientifique du coup à l'infidélité ?
Oui, je vois que vous êtes toujours un grand romantique. Alors oui, il y a une explication notamment chez des rongeurs. C'est fascinant. On a regardé des rongeurs, les campagnols des prairies, qu'on a comparé aux campagnols des montagnes. Le campagnol des prairies, il a une particularité, c'est qu'il est très fidèle. Dès qu'il s'accouple, il reste jusqu'à la fin de sa vie avec son même partenaire. Alors que le campagnol des montagnes est un peu plus volage, libertin, pour pas dire infidèle, pour être tout à fait honnête. Alors, ce serait lié à deux choses, deux hormones. La première, c'est l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement. Et bien, le campagnol, lorsqu'il a un rapport sexuel dans les prairies, et bien tout d'un coup, il devient fidèle toute sa vie parce qu'il a un boom d'ocytocine. Alors que le campagnol des montagnes n'a pas d'ocytocine. Il aurait peut-être une explication chimique à l'infidélité. Et puis, il y a une deuxième hormone qu'on appelle la vasopressine qui va permettre, c'est un peu comme l'adrénaline, de défendre le nid, le territoire. Et bien, encore une fois, le campagnol des prairies en a plein. Quant au campagnol des montagnes, il n'en a pas. On s'est donc amusé à faire des petites expériences. On a bloqué l'ocytocine au campagnol qui était fidèle. Et bien, tout d'un coup, il devient infidèle. Et puis à l'inverse, celui qui allait voir à droite ou à gauche, eh bien on lui a rajouté un peu d'ocytocine. Eh bien tout d'un coup, il restait fidèle à son partenaire. Des chercheurs suédois ont même poussé l'expérience en proposant un spray nasal chez l'homme lorsque sa femme était loin d'elle, exactement. Eh bien figurez-vous, alors c'est des déclarations, que les hommes étaient un peu plus fidèles après ce spray nasal d'ocytocine. Reste à savoir si l'infidélité est une maladie. Je pense que c'est un autre débat et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore de vrais médicaments.
Il y a des hommes des prairies et des hommes des montagnes aussi.
Voilà, je ne sais pas de quel côté vous êtes, mais ça sera entre nous.
Sans rendez-vous à 15h avec Mélanie Gomez, on va parler de ce qui se passe dans le cerveau aussi tout au long de la journée.
C'est fascinant, vraiment, une neurobiologiste du cerveau. Elle va vous apprendre plein de trucs. Pourquoi est-ce qu'on adore l'odeur du café ? Il se passe quelque chose dans le cerveau. Soyez au rendez-vous.
15h, sans rendez-vous, tout à l'heure, 8h41. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète, on s'arrête avec vous ce matin sur le plus grand programme de reboisement jamais imaginé en France. On parle de pépinières participatives.
Oui, c'est ça. Planter des arbres deviendra bientôt peut-être un de nos passe-temps préférés. Se faire plaisir en remettant les mains dans la terre et en reboisant une France qui aurait tout à gagner en retrouvant ses haies. Car depuis la Deuxième Guerre mondiale et suite au remembrement, il ne reste plus que 750 000 km linéaires de haies en France. Les haies qui sont, je le rappelle, des zones prodigieuses de captation de carbone, des refuges pour la biodiversité. Elles aident aussi à la stabilisation des sols et aussi à l'épuration de l'eau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on continue à les arracher pour optimiser les rendements agricole. Or, pour être en phase avec les objectifs climat et aussi conserver nos oiseaux et nos insectes, il faudrait planter 25 000 km de haies par an pour arriver à 1,5 million de km de haies d'ici 2050. Un immense chantier réalisable seulement, déjà si l'on dispose de suffisamment de plants d'arbres, ce qui à ce jour n'est pas le cas. Voilà pourquoi il faut plus de pépinières et aussi et surtout d'huile de coude.
De l'huile de coude, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de citoyens veulent se mettre au service du changement et remettre les mains dans la terre.
Exactement, c'est la bonne nouvelle. Voilà pourquoi l'activiste Maxime de Rosteland, qui est l'instigateur de ce projet d'envergure nationale qu'il a baptisé Community Trees, va créer des filières de production dans tout l'Hexagone pour garantir la fourniture de petits arbres et fera bientôt appel à tous les bras armés de bonne volonté, en association bien sûr avec les collectivités locales, les professionnels encadrants et bien sûr les agriculteurs, sans oublier aussi les quelques 50 millions d'euros qui, dans le cadre du plan de relance, vont être dégagés pour replanter ces haies à travers la France. Enveloppe, il ne faut pas se mentir, qui reste largement insuffisante pour atteindre les objectifs en France, alors que 2 millions d'hectares sont dès à présent convertibles en agroforesterie.
Et c'est un système qui a fait ses preuves à l'étranger ?
Ah mais complètement. Tenez par exemple le Costa Rica, pays dont le couvert forestier a doublé en quelques années. Eh bien, ça a marché. Et cela grâce à la mobilisation citoyenne là-bas. Bah, si le week-end, par exemple, t'as envie de planter des arbres en famille, eh bien, tout est prévu pour ça. Et c'est l'État qui fournit les plans. Un modèle à suivre qui fait le pari du collectif et de la force du nombre pour relever ce défi aux bénéfices inestimables pour la santé des écosystèmes et pour la santé humaine.
Voilà, planter des arbres en famille, ça peut être une idée d'activité dans le futur. On écoute le monde changé. Merci à vous Fanny Agostini. Il est 8h44.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et un nouveau rendez-vous ce matin sur Europe 1. Un peu de musique pour démarrer la journée. On écoute le monde chanter avec vous Angèle Châtelier. Bonjour.
Oui, bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qu'on écoute ce matin ?
Eh bien on va revenir sur le nouvel album de Sia.
Et puis on retrouvera bien sûr Nicolas Canteloup pour le meilleur de la revue de presse. À tout de suite sur Europe.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h46, c'est donc votre nouveau rendez-vous musical toute cette semaine. Écoutez le monde chanter. Angèle Châtelier, vous nous emmenez donc dans l'univers de la pop star australienne Sia, qui vient de sortir un nouvel album.
Music, un album pop et intense. Sia, aux tenues fantasques, colorées, est une machine à tubes. Et on les écoute avec nostalgie dans un monde pour l'instant privé de lieux où danser ensemble. Ces tubes, Sia se les approprie, mais elle en offre aussi aux autres. Elle a écrit pour Rihanna, Céline Dion, Beyoncé, et puis a collaboré avec le DJ David Guetta. Leur morceau Floating Through Space, sorti il y a une semaine, cumule déjà 4 millions de vues sur YouTube. Sia aime cacher son visage avec des perruques à franges. En réalité, c'est par timidité maladive. Et elle tente encore de guérir après des événements terribles, comme la mort de son petit ami il y a 25 ans, ou bien ses addictions à la drogue et à l'alcool. Ses faiblesses, elle les chante parfois, comme dans ce titre « Save my life, sauver ma vie ».
Sia ne sort pas seulement un album, elle sort aussi un film.
Oui, cet album en est la bande originale. Il sortira en France au mois de mars, mais sur fond de polémique, car s'il narre le quotidien d'une jeune autiste, l'actrice qui l'incarne, Maddie Ziegler, ne l'est pas. S'en est suivi un torrent de critiques au point que la pop star a quitté les réseaux sociaux et ne fait aucune promotion de ce nouvel album. Mais polémique ou non, Music est à découvrir dès maintenant avec ce titre en une, Courage to Change.
8h48 sur Europe 1.
World, I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see your real me. When it falls, when it falls. But I know me in the rain it falls, so undeceived through love and hope, we don't have to stay stuck in the weeds.
When it falls, but I know me in the rain it falls.
Courage to Change, c'est le nouveau titre de Sia, cette chanteuse australienne pleine de mystères. Nouvel album Music donc, que nous fait découvrir ce matin Angèle Châtelier. Angèle, demain, quel
on se retrouve demain et on écoutera à la Bachung.
Avec plaisir, à demain, 8h52. Et voici le meilleur de Nicolas Canteloup, la revue de presse avec Julie.
Nous sommes au complet ce matin et nous accueillons notre président Emmanuel Macron. Bonjour à vous.
Ah. Oui, pardon, excusez-moi.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Une petite serviette, s'il vous plaît. Oui, merci, Jimmy. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Je fais vite parce que j'ai mon jet ski qui est garé en double fil sur la scène. Alors, c'est bien d'être quai André Citroën parce que ça me permet de me garer en jet ski. Alors, je vois que contrairement.
Vous êtes essoufflé, vous.
Pardonnez-moi, c'est le jet ski, bah oui, du sport, c'est du sport. Je vois que contrairement à moi, on n'a pas remanié l'équipe. Hein, Mathieu Béliard, Cabrol, Leclerc, écoutez, c'est finalement pas idiot ce casting maintenu, parce que je me demande si j'ai bien fait moi de remanier.
Ah oui, vous êtes séparé d'Edouard Philippe, vous, hein ?
Oui, mais écoutez, l'été arrivant, j'ai fait comme certains Français un peu lâches, cher Julie Leclerc, j'ai abandonné mon Dalmatien, mon Edouard Philippe. Je l'ai accroché à un arbre sur une route du Havre. Écoutez, franchement, tant qu'il ne revient pas en 2022 me pisser sur le tapis de l'Elysée... Et puis bon, vous l'avez vu, j'ai mis l'autre là, Jean Castex à la place, voilà. Ouais. Ben que voulez-vous ? Parfois, on fait un mercato, on rêve de recruter Messi, et puis on se retrouve avec Jean Castex.
Gérald Darmanin a créé des remous en parlant d'ensauvagement de la société, un terme habituellement employé par l'extrême droite. Hein. Marine Le Pen, c'est vous qui avez popularisé ce terme, la première.
Oui, bonjour là.
Bonjour.
Oui, je suis choqué d'entendre Monsieur Darmanin utiliser ce terme d'ensauvagement, parce que, le savez-vous certainement, c'est un de mes concepts. Donc il chourave, le petit bâtard. Moi, j'ai envie de m'adresser à lui. Où sont les caméras ? Où sont les caméras ? Dites donc, Sarko Junior, tu crois que je ne te vois pas essayer de me faire le même coup que ton père spirituel, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, écoutez, il essaye de me piquer mes électeurs, vous le savez bien, comme Monsieur Sarkozy avant lui. Vous allez voir que dans 3 semaines, Madame Leclerc,
oui.
Vous allez voir qu'il va parler du grand remplacement anti-blanc, du racisme anti-blanc, pardonnez-moi. Non, franchement, alors que je cherche des concepts en permanence, c'est à vous dégoûter de bosser. Tiens, je vais lui tendre un piège. Pour voir s'il va me piquer mon concept. J'ai envie de vous parler ce matin et de dénoncer sur votre antenne la couscoussisation de la société.
Voilà. Bon, enfin, mais vous n'êtes pas bien, c'est affreusement raciste.
Oui, mais on va voir, si Darmanin me le pique. On va voir si je lui donne 15 jours avant de reprendre mon concept de couscoussisation de la société, voire même de tagination de la France. Dans une de tes merveilleuses interviews, je l'y métisse.
Tagination, c'est plus facile à dire que couscoussisation, hein.
Oui, on s'en fout, madame Julie, de ce que vous racontez.
Tiens, bah justement, on va parler du duo de choc de la place Beauvau, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Après la polémique sur l'ensauvagement, la multiplication des agressions au cours de l'été, les accusations de violence et de racisme dans la police, ils ont du pain sur la planche, tous
du
les deux.
Du pain sur la planche. Oh, du pain sur la planche, formidable. Oh, c'est génial. Oh, vous me donnez des sujets tout cuit. C'est alors d'où vient l'expression ? Parce que les auditeurs se demandent tout le temps d'où vient ce genre d'expression et ça les passionne. D'où vient l'expression avoir du pain sur la planche ?
Oh non, s'il vous plaît, Stéphane Bern.
Eh bien, se trouve qu'en 1764, Louis XVI était fan de planches à voile. Mais quand il partait en planche, il mettait toujours, pour avoir un petit peu de réserve et son petit goûter, il mettait du pain sur la planche, d'où l'expression. Car il se trouve qu'à l'époque, Louis XVI, lorsqu'il mettait la voilure...
C'est pas du tout l'heure de votre chronique, hein, Stéphane, on va vous laisser aussi, vous. Hein.
Louis Bonne de Louis XVI, je ne parle pas Louis Bonne de Louis XVI.
C'est bon, nous on va parler...
Façon de tenir Louis Bonne qui était tout à lui.
Le tennisman Benoît Paire, vous savez, il a été exclu du tournoi de l'US Open pour avoir été contrôlé positif au Covid, à la Covid, mais qui a critiqué le protocole du tournoi. Bonjour Nelson Monfort.
Oui, bonjour ma chère Julie, mon cher Mathieu, bonjour à tous, cher Jimmy, cher Laurent. Quel soulagement pour Nadal et Djokovic. Benoît Paire, le grand Benoît Paire exclu. Ils vont peut-être avoir enfin une petite chance de gagner le prestigieux tournoi. Oh, je ris tout seul, pardonnez-moi, non. Je plaisantais, vous l'avez compris. Ils ne savaient même pas qui est Benoît Paire. Les malheureux. Alors, Benoît Paire, pardonnez-moi, a été positif à la Covid-19, mais toujours pas au service gagnant, ni au coup droit, ni positif au revers ou au passing shot réussi.
Vous comprenez, Nelson, la décision des dirigeants de l'US Open, dirigée contre Benoît Paire.
Oui, c'est très compréhensible, ma chère Julie, parce que vous le savez, on ne joue pas au tennis avec des gants de façon précautionneuse, donc le français va infecter toutes ses balles, et malheureusement, vu le manque de maîtrise des trajectoires, la maladie va se répandre. On a déjà retrouvé des balles de Benoît Paire à plus de 35 km du cours où jouait Benoît. Donc si on veut éviter la propagation du virus, gardons Benoît en quarantaine à vous, Paris.
Nicolas Canteloup, dont on retrouvera le meilleur chaque matin tout au long de la semaine, et que vous écoutez bien sûr à volonté sur Europe1.fr. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Sébastien.
Quel est le programme de Culture Média?
Notre info média du jour, c'est un livre consacré à Mademoiselle Petrucciani, vous la connaissez? Loana Petrucciani, première star de la télé-réalité en France. On ne connaît que son prénom, pas son nom de famille. Et bien, c'est justement quelque chose qui a beaucoup intéressé notre invité, l'auteur de ce livre, Paul Sansfourche, Sexisme Story, analyse sociologique du phénomène. Loana, évidemment, ça va plus loin. Qu'est-ce que ça dit de notre époque et de la télévision, ce sexisme larvé? Au sommaire également, la journaliste, plus qu'au sommaire, elle sera notre invitée, la journaliste Karine Baste-Régis. Elle présente les journaux de Télématin en semaine dans l'année et elle est désormais le joker officiel des 20h de France 2 en lieu et place d'Anne-Sophie Lapix. Elle sera d'ailleurs ce soir à la présentation du JT. On en saura plus avec elle, sa préparation. Et puis notre invité a été la voix phare de la comédie musicale Les 10 Commandements. C'est Daniel Lévy qui revient de loin en cancer. Il ne s'en cache pas. Il revient avec un album, Grâce à toi, un nouvel album grave et groovy.
Culture Média avec Philippe Vandel. C'est juste après le journal de 9h. Je vous souhaite une très belle journée. Demain 5h, Théo Manval. Je vous retrouve à partir de 7h en direct sur Europe 1. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.